partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio G, à votre émission Il est l'heure Monseigneur, un lundi sur deux de 13h à 14h. Quel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui on a une émission assez paritaire hein, puisqu'il y a deux hommes et deux femmes. Effectif réduit mais la parfaite parité.
Les donc, meilleurs.
Voilà. Bonjour Josiane.
Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
Voilà.
Bonjour tout le monde, quel
bonjour
plaisir
Jacqueline.
D'être avec vous. Bonjour à vous.
Et bonjour Marc.
Bonjour Raphaël, bonjour aux auditeurs.
Bon.
Et auditrice.
Ben oui. Oui, maintenant, faut dire tout ça. Voilà. On va en discuter. Tiens, c'est un bon sujet pour ce jour-là. Alors, aujourd'hui, comme à notre habitude, on va découvrir un personnage mystère qui est beaucoup plus populaire que le dernier André Leroy qui était, je vous avais mis un petit peu quand
c'était
même.
C'était pourtant un angevin.
Eh oui, mais non, pas très connu finalement.
C'était dur. Hein.
Et donc là, c'est un personnage que forcément vous connaissez tous et les auditeurs aussi. Donc je vous mets pas en difficulté. Hein. Au bout de deux indices, normalement, vous aurez trouvé.
Oh. Et celui qui trouve en premier, il a la médaille d'argent, la médaille d'or, il monte sur le podium.
Je ne sais pas. Alors, c'est le printemps, hein, le soleil revient. On va écouter comme premier indice la chanson de Véronique Sanson, Amoureuse, mais dans cinq langues, un petit medley de cinq langues différentes. Et on en reparle tout de suite après. À tout de suite.
Strands of light upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone. Reaching out, I touch another skin. L'imaginé suoi perché. Vicina, poi resta qui. Tu mi piaci, dice, è così. Cuando sienta que en su vida estoy, yo quisiera estar lejos de aquí y que el diablo me aleja de él. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Qu'arrive le soleil quand je prends sa tête entre mes mains.
C'était un petit medley de chansons amoureuses de Véronique Sanson dans cinq langues différentes. Alors Josiane, elle est un petit peu perdue, hein, comme elle.
Les deux dernières. J'ai compris.
Donc, pourquoi c'est l'indice du jour? Tout simplement parce que notre personnage mystère parlait cinq langues Et moi, je ne savais pas ça de lui. Je vous mets tout de suite sur la piste. C'est un homme. Et il faut préciser qu'il est né en 1914. C'est pas la meilleure époque. Hein. Mmh. Et à l'étranger, du côté de la Russie. Voilà. Donc, on en dit un tout petit peu plus tout à l'heure. C'est le printemps, voilà. On parlait de choses et d'autres. Là, il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a des sujets à mettre sur la table ?
Non, mais excuse-moi. Puisque tu parles de la Russie, j'ai entendu, bien évidemment, avec le temps du muguet.
J'adore.
Et le temps du muguet, c'est une chanson russe.
Oui, bien sûr.
Ah bah, je savais pas, moi. Bien sûr.
Alors, ben, voilà, mais...
Non, mais...
Je manque de culture parce que je ne vois même pas cette chanson.
Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami va payer.
Ah, on n'a pas toutes les paroles, quand
voilà.
même.
Non, mais alors, il a été interprété par je ne sais combien de... Il a été interprété par je ne sais combien d'artistes, dont Mireille Mathieu, qui avait été chanté en Russie, mais en,
ah mais c'est
en,
une, en russe. Parce que c'était ils une... sont fans absolus de Mireille Mathieu.
Oui, elle a beaucoup de succès là-bas.
Et c'était donc cette chanson-là est d'origine russe.
Bon, ben voilà, une chanson que je ne connais pas et qui mérite à être découverte.
Ah, il faut que tu écoutes ça.
D'accord, ok. On a parlé de petites choses et d'autres là avant de lancer l'émission. Il y avait des sujets un petit peu houleux à propos de manifestations, à propos de choses et d'autres. Je lance tout de suite un pour et contre. Allons-y. Un pour ou contre la vidéosurveillance, parce que on a tous constaté là qu'il y avait eu de gros débordements dans les manifestations, et probablement que ce sont des mouvements qui sont on va dire dissociés du mouvement syndicaliste. Mais effectivement, est-ce que vous êtes pour ou contre la vidéosurveillance de manière générale et sur des événements pareils? Quelle est votre réflexion sur ce sujet?
Bah écoute, moi je suis pas pour n'importe où. Non, parce que quand même, on n'a pas besoin d'être espionné en permanence, mais dans des manifestations comme ça, qu'on puisse identifier les fauteurs de troubles et que on les reconnaisse, puis au besoin, s'ils peuvent pas payer l'amende, ben qu'on leur fasse faire des travaux d'utilité publique ou des choses comme ça. Mais je suis là pour les drones au-dessus des manifestations.
On en parlait tout à l'heure, hein, Josiane, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut géolocaliser une voiture au centimètre près avec des visions satellites. On s'étonne qu'on puisse pas en faire autant parfois sur des événements. Voilà.
Oui, bah là moi je rejoins Josiane, la vidéosurveillance à tout craint, tout et partout, non, parce que je trouve que quand même la liberté de chacun est à respecter, mais là, lors de manifestations où il y a malheureusement des casseurs et qui font tout et n'importe quoi, là effectivement, avec une surveillance de drone, ça permettrait peut-être de pouvoir remonter à la source et d'éviter ce genre de manifestations qui dégénèrent à chaque fois.
Idem pour certains championnats de football, de ceci, de cela, où il y a toujours des casseurs.
Des fauteurs de troubles.
Mais c'est vrai que moi je pense que la liberté, c'est la liberté de se déplacer, c'est quand même sacré. Hein.
J'entends bien.
Non, mais je faut quand même avoir ça à l'esprit. Et j'entendais hier soir justement une personne qui parlait de ça, notamment dans le droit français, par exemple. On ne peut pas, par prévention, empêcher les personnes identifiées, par exemple les fameux black blocs dont on parle, là, on ne peut pas les arrêter a priori.
Ça veut dire que ça leur donne le droit de tout casser.
Ben oui, c'est ça la difficulté, d'où la tentation, voilà. L'approche d'essayer d'avoir des moyens de vision, de reconnaissance. Alors après, il faut que ce soit quand même
très cadré.
Très cadré. Hein. C'est sûr que
très cadré.
Parce que les dérives, on le voit dans certains pays. Hein. On voit des images en Chine où il y a des caméras partout.
Ah bah, là, en Chine, ils sont complètement
à travers la Covid. Ils étaient pistés partout.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après les avoir utilisés pour tel événement?
Oui.
qu'est-ce qu'on en fait? On les archive, on les ressort, on dit à quelqu'un, ah ben...
Alors, pour moi, typiquement, effectivement, moi, je suis plutôt favorable à l'usage de la vidéosurveillance, et par contre, je suis contre le stockage, parce que effectivement, on n'a pas besoin d'être pisté de notre naissance au tombeau, et j'ai envie de dire, l'usage de la vidéosurveillance ne devrait être utile qu'en cas de débordement ou de troubles avérés. C'est-à-dire que quand on est dans une grande surface, si on s'aperçoit qu'il y a un truc qui a été volé, c'est quand même pratique d'avoir une vidéo sur 24-48 heures pour pouvoir avoir au moins un indice sur l'horaire de l'action, par exemple.
Le drone, c'est autre chose.
Alors après, il y a ce qui est du domaine de la vie privée ou à l'intérieur, par exemple, d'un magasin ou d'un cinéma ou autre chose, de la voie publique. Parce que la voie publique, c'est le principe où on circule naturellement.
Oui, mais comment empêcher justement ces dérives avec tous ces casseurs qui vraiment...
On a beaucoup entendu parler récemment là, de l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, une caméra qui peut pister un individu pixel par pixel, je vois pas où est le problème. J'ai envie de dire, les moyens, on les a. C'est plus l'appareil juridique qui fait défaut pour l'instant.
L'utilisation,
effectivement...
Je reviens toujours à la fameuse langue d'Ésope, c'est la meilleure ou la pire des choses. Hein. Vous souvenez, il servait de la langue à tous les plats. Et c'est la leçon de cette femme, c'est de dire, voilà, et c'est l'utilisation. Et bon, on est dans une démocratie, il faut maintenir ces câbles de cette liberté.
Oui, mais je crois que justement...
Et l'idée du fichage, on voit bien, sous les régimes totalitaires,
le problème
les gens étaient fichés. Enfin,
c'est qu'ils en profitent allègrement pour faire tout et n'importe quoi. Mmh. Et justement... mettre la démocratie en péril, parce que brûler et casser à tout craint, ça n'apporte absolument aucune solution.
Je suis allé personnellement manifester ma désapprobation. Je le dis en ces termes, pas autrement.
Oui, on en a tout à fait le droit.
Et j'y suis allé avec mon enfant.
Oui, en famille.
Voilà, j'ai envie de dire... Le problème, c'est que c'est là où je comprends pas comment les autorités ne peuvent pas réagir, y compris par anticipation, dans les préparations du cortège.
C'est ça.
Les personnes probablement qui ont débordé étaient là au premier, au deuxième, au troisième journée, et j'ai envie de dire, ils n'ont pas changé d'apparence. Donc ça m'interpelle quand même de savoir
surtout
que
ils sont quasiment en uniforme, puisqu'ils ils sont en noir, avec leur parapluie. Alors,
là, en l'occurrence, je pensais à un autre petit groupe, mais qui menait de la même manière des personnes extrêmes.
Ah oui, alors, d'accord.
Je vais pas parler d'extrémistes, mais des personnes extrêmes.
Ça peut être vraiment très dangereux, justement, dans les cortèges où il y a des familles qui viennent pour manifester. Ce qui est leur droit absolu, et tout d'un coup, tu te retrouves au milieu d'une espèce de mêlée où ça part dans tous les sens. C'est quand même. Moi, je trouve que ça fait peur.
Les gaz lacrymogènes, tout un tas de trucs, t'as rien fait, mais t'en respires, t'en prends plein.
Ça s'appelle l'expérience.
Oui, on peut demander mieux.
Après, et là, j'espère que dans le lot de nos auditeurs, il y en a aussi qui écoutent. Quand on lutte contre le système, on va pas le nourrir. Alors là, en l'occurrence, briser des abribus ou des vitrines, comme j'ai vu, j'ai envie de dire, ça enrichit seulement Saint-Gobain. Hein.
ceux-là, ils craindront pas le
chômage. Oui, mais ils se battent contre eux et en même temps, ils leur donnent toute la légitimité derrière.
Du grain
derrière,
à moudre, ça c'est sûr.
Bon, ouais,
dernière chose, peut-être, Josiane, tu parlais des stades, et dans les stades, effectivement, il y a les fameux hooligans qui sont là, qui regardent pas le match, ils sont là pour de la casse, la violence, et ça empêche notamment dans certains stades. Maintenant, ils ont essayé d'améliorer ça, mais la venue en famille, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Raphaël, la venue en famille dans un stade, parce que c'est comme ça qui est agréable, les enfants.
Bah oui, le partage, bien sûr.
Le papy avec ses petits enfants qui regardent le match de foot, c'est génial.
On dit en principe
génial,
que le sport rassemble, on est là pour des choses comme ça.
Donc, bon, on va se rassembler autour d'un nouvel indice.
Je suis curieuse.
Alors, je vais vous proposer d'écouter la chanson « Mille heures » de Édith Piaf, qui est sortie en 1962, si je dis pas de bêtises. En 1960, pardon. Et notre personnage mystère était à l'affiche d'un film de cinéma à cette époque-là. Alors, c'est pas ce pourquoi il est connu, j'insiste bien. Il était à l'affiche du film, 20 000 lieues sur la Terre. Pas 20 000 lieues sur les mers, 20 000 lieues sur la Terre. Voilà, on écoute la chanson et puis je vous laisse se phosphorer pendant ce temps-là. À tout de suite.
« m'asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta da 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 da.
Donc Milord par Edith Piaf en 1960. Donc je précise, hein, c'est pas Edith Piaf ou Milord, c'était juste l'année 1960. L'indice avec la sortie du film 20 000 lieues sur la Terre. Alors nos chroniqueurs ont déjà identifié l'invité mystère et ils vont vous donner, allez, un indice chacun sans vendre la mèche. Qu'est-ce qu'on peut dire
alors,
de notre personnage mystère?
Vive les têtes couronnées.
Vive les têtes couronnées pour Josiane. Jacqueline, qu'est-ce que tu ajouterais?
Vive les journalistes sportifs.
Vive les journalistes sportifs. Et Marc, il te reste le plus dur puisqu'elles ont déjà donné l'essentiel.
Elles ont donné l'essentiel. qu'est-ce que je vais dire, moi? Je pensais au PMU, mais bon, c'est un peu déjà dit. Mais,
les vachettes
oui. La télé, un homme de télé.
Un homme de télé, effectivement, il a été tout ça. Hein. On va en dire un tout petit peu plus tout à l'heure. Je rappelle juste les cinq langues que notre personnage mystère parlait. Il parlait le russe, le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Voilà. Moi, bravo, je dis chapeau bas.
Un bon bagage.
Ah oui. Deux langues, c'est déjà bien compliqué à maîtriser, je trouve. Alors cinq, je ne sais pas comment il faisait. Bref. Jean-Jacques, aujourd'hui, n'est pas avec nous, mais il nous a laissé une petite chronique concernant les médicaments non usagés, justement. Donc, on va l'écouter et on réagit tout de suite sur sa chronique. À tout de suite.
Bonjour. Ceci est une chronique UFC que choisir. Santé. Médicaments périmés, mode d'emploi. Les médicaments dont la date est dépassée ne sont pas forcément à jeter. Tout dépend de leur usage et de leur conditionnement. En outre, l'élimination doit tenir compte de précautions environnementales élémentaires. Les essais montrent que des médicaments jamais ouverts ont gardé toutes leurs propriétés, même plusieurs années après la date mentionnée sur leur emballage. C'est vrai aussi pour une boîte de comprimés scellée individuellement dans une plaquette ou les dosettes à usage unique. En revanche, lorsqu'ils sont entamés, la conservation est beaucoup moins durable. En fait, il faut distinguer alors, selon le conditionnement des produits pharmaceutiques, les remèdes en forme sèche, comme les cachets, sont inutilisables lorsqu'ils sont en vrac dans un flacon déjà commencé, à cause de l'oxygène et de l'humidité ambiante qui les altère lentement, comme avec les biscuits. En effet, l'efficacité d'un médicament disparaît alors que son principe est altéré de 5 à 10% seulement. Les formes liquides, comme les sirops, crèmes et pommades, sont beaucoup moins stables. Le récipient entamé capte aussi les contaminations microbiennes. Il faut donc s'en débarrasser au plus 30 jours après ouverture. Dans tous les cas, il n'y a pas de vrai danger si l'on découvre le dépassement de sa date après avoir absorbé un médicament, même largement périmé. Aucun de ces accidents n'a provoqué de troubles graves ni de malaise. C'est simplement l'effet attendu qui n'est pas au rendez-vous. La date n'est d'ailleurs pas le seul indice. Un produit mal conservé, humide ou souillé va présenter un aspect anormal, décoloré, effrité par exemple. Les médicaments ne se jettent pas comme les aliments, et surtout pas avec les eaux usées. Leurs molécules restent actives et polluent gravement les fleuves, car elles ne sont pas éliminées par les techniques d'assainissement. Le mieux est de les rapporter en pharmacie, et le moins mauvais, de les jeter avec les déchets ménagers pour incinération.
Effectivement, les médicaments, c'est pas un bien de consommation courante, et donc ça demande un traitement particulier. Et alors, la question que je me pose, et là Jean-Jacques n'est pas là pour y répondre, mais qu'est-ce qu'il advient des médicaments qu'on rapporte chez le pharmacien?
La question que j'allais me poser.
Moi aussi, parce que je les rapporte au pharmacien.
Oui, mais dans le micro, c'est mieux. Et il y a quelques années, il y avait un réseau de réemploi, on va dire Cyclamed, si je dis pas de bêtises, qui envoyait des médicaments dans des pays
en
développement.
Oui.
Et pour le coup, je crois que ces réseaux ne sont plus effectifs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui les médicaments sont systématiquement incinérés? Je ne sais pas.
Moi, je pense que oui, s'il n'y a pas le circuit de que vous évoquiez à l'instant, je pense qu'ils sont détruits comme. Comme produit chimique
nocif, voilà,
qu'on peut pas laisser entre les mains de personne. Donc il y a maintenant des installations prévues un peu pour les détruire, un peu comme les pesticides par exemple. Moi je connais un peu ce domaine-là, les produits chimiques pesticides qui sont résiduels, enfin qui ne sont plus utilisés ou utilisables, sont détruits à haut niveau de température, enfin dans des conditions tout à fait
particulières
avec un agrément. Enfin, n'importe qui peut pas le faire.
Et je crois qu'il faut bien insister qu'on ne jette pas les médicaments dans les eaux domestiques ou dans les toilettes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'eau avec des antibiotiques d'office. Donc on arrête ça et surtout on ne fait pas n'importe quoi.
Moi j'ai deux pensées par rapport à ça. La première, c'est la prévention dans l'utilisation de la distribution des médicaments. Je trouve que Il y a des pays où ils le distribuent en fonction du niveau de traitement, mm-hmm. et c'est pas oui. comme
t'as
en
pas
France,
une boîte de 12 comprimés, t'en as que 3,
de
12,
de 13,
exemple,
etc. Et qui génère à mon avis beaucoup de déchets, justement,
de gaspillage. C'est sûr.
Et puis il y a un autre type d'accident qui peuvent arriver. C'est l'expérience que j'ai eue aussi professionnellement de discuter avec un responsable du centre anti-poison d'Angers à l'époque et qui me disait. Au niveau de justement des risques par rapport à ce genre de médicaments, c'est surtout au niveau des enfants que
oui.
ça arrive.
Ah, bah oui.
Et donc pas laisser traîner les médicaments parce que et le grand classique qu'il disait, c'était le petit soeur, la grande sœur ou le grand frère qui jouait au médecin avec son petit frère ou sa petite sœur. Mmh. Et qui avait des médicaments et qui donnait les médicaments. Et ça, il en envoyait régulièrement arriver au centre anti-poison en urgence parce que le gamin avait les médicaments.
Oui,
donc
puis
je
en plus,
signale ça
c'est
pour
vrai.
Les parents, notamment des enfants en bas âge.
Je vais au docteur.
Attention.
Ça, d'autant plus qu'il y a certains médicaments qui sont jolis d'aspect.
Mais oui, sûr.
Ça ressemble à des bonbons.
Voilà.
À de couleurs. Donc que l'enfant ne peut pas faire la différence.
Voilà. Donc c'est là, c'est un petit conseil que je donne.
Le premier conseil, c'est hors de portée des enfants.
C'est ça, bien hein, sûr.
Évidemment.
Mais après, moi, ça m'amène une réflexion où, effectivement, le conditionnement, à mon avis, il est aussi là pour, quelque part, pousser à la consommation. Oui. Et je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est le seul pays où on vend les médicaments par boîte.
Oui, il me semble. Hein.
Oui, mais je lisais un article très récemment qu'ils avaient essayé de faire, justement, les médicaments à l'unité. Pour justement un traitement de 3 jours, par exemple, avec 3 comprimés, et que ça ne fonctionne absolument pas.
Alors, est-ce que les consommateurs ne veulent pas ?
Non.
C'est parce que les consommateurs boudent ?
Oui, oui, apparemment, ils ne sont pas du tout habitués à prendre des comprimés comme ça, uniquement par l'unité. Ils préfèrent avoir une boîte.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de culturel là-dedans. Quand on est adulte, entre guillemets, on est censé être responsable et donc suivre une prescription à la lettre. On en est théoriquement capable, sauf que c'est pas toujours le cas. Hein, et je pense qu'une pharmacie préparerait une boîte à médicaments journalière, ce serait parfois bien plus prudent.
C'est vrai, et moi j'ai remarqué, ayant des traitements au mois, c'est-à-dire que les mois de 31 jours, vous n'avez des emballages que de 28 oui. comprimés. Donc résultat, vous êtes obligé d'avoir une deuxième boîte.
Tu n'utilises que les deux.
Voilà, si vous n'avez pas un traitement à long terme, bah le premier mois, il vous manque des comprimés, mais après, vous en avez pléthore, dont vous ne savez que faire.
Donc moi, je trouve que c'est la double peine.
Voilà.
Il y a un gaspillage financier, et puis il y a aussi, sur le plan pratique, quelque chose qui n'est pas adapté.
Voilà, donc ou vous n'en avez pas assez, ou vous en avez de beaucoup trop.
Parce que les habitudes, on peut les changer.
Et c'est pas la peine de la passer à la copine qui « Oh, bah attends, j'ai quelque chose de miraculeux. »
Non, mais en revanche, ça c'est une vraie dérive, et malheureusement qui existe. Et une autre dérive, moi, dont je prends conscience un petit peu dans le cercle de l'association France Alzheimer 49 et d'autres, c'est que parfois, on assiste à des trafics de médicaments. Et dans les établissements y compris. Donc,
ah bon?
Oui, je trouve que c'est déroutant. Et,
c'est irresponsable. Hein.
Ben,
oui, parce qu'un médicament, c'est pas anodin.
Non, mais voilà, il y a des médicaments, on va dire, qui sont ciblés, hein, les opiacés,
oui.
les choses. C'est pas du doliprane qu'ils prennent. Hein, mais
ils passent partout.
Mais malgré tout, ce serait mieux distribué. Je pense que le problème serait moins risqué.
Oui.
Voilà. Bon, on a refait le monde autour de la pharmacologie. Je vous propose.
Merci Jean-Jacques.
Allez, un petit blanc marqué pour moi. On va écouter tout de suite un nouvel indice sonore. Eh ben si, on va écouter tout de suite une chanson en lien avec ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure. Il s'agit du tango d'Interville. Voilà. On l'écoute et on en reparle tout de suite après.
Moi, je suis dans Interville.
Musique.
Je suis aussi dans Interville. Mais moi, je suis dans une ville. Et moi, je suis dans l'autre ville.
nous sommes branchés sur la même chaîne.
Pourtant, nous nous voyons à peine.
Léon ! Léon !
Dilux, je ne vous entends pas.
Je m'en étonne. Voilà. C'est bon.
On peut commencer l'émission.
Pourvu que le ciel nous soit clément et nous épargne le tourment d'une ville sous la pluie.
Pourvu que les micros ne nous lâchent pas et que fonctionnent les caméras. Maintenant que c'est parti.
Cogitation.
Hésitation.
Je vais, mon cher Léon, demander, si vous le permettez, l'avis des maires.
Contestation.
Protestation.
Nous allons déborder l'enfer.
Attention, pour 15 secondes, musique, top chronomètre.
Mais Guiluc, je ne suis pas d'accord, moi j'ai 30 secondes sur mon règlement.
Pourquoi vous avez un règlement, Léon ?
Et musique.
Oui, c'est peut-être le but de l'émission précédente, mais j'ai un règlement.
Alors qu'est-ce qu'il dit, votre règlement ?
Lâchez la vache.
Lâchez la vache ? Je ne suis pas d'accord non plus.
Ben alors on va... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel au jury de Paris. À vous, Paris.
Soit, soit, quand moi, je suis dans Interville.
Je suis aussi dans Interville.
Heureusement. Mais moi, je me trouve à Bayonne.
Pendant que je suis à Narbonne.
Je suis de tout cœur avec vous.
Je ne vous entends pas du tout.
Encore une fois. Léon ! Léon !
Dilux, malgré toute l'amitié que je vous porte, je ne vous entends pas.
Il va faire son discours et son numéro.
Je crois que nous en faisons trop.
Bon, donc c'était Léon Zitrone et Guilux qui chantaient le tango d'Interville. Alors c'est pas compliqué, hein, notre personnage mystère, c'est l'un des deux. Alors là, on vous a mis un peu sur la piste.
Guilux, c'est un homme.
Oui. Donc effectivement, notre invité mystère, allez Josiane, je te laisse le privilège de l'annoncer.
Ah le grand Léon Zitrone.
Hein, alors le vraiment... oui, le grand parce qu'en plus il était baraqué, le monsieur.
Oui, c'était une force de la nature. Oui.
Mais c'était un personnage.
Il paraît qu'il préparait bien, il avait toutes ses fiches, c'était un professionnel.
Ah oui, c'était quelqu'un de très
méthodique dans plein de domaines. Hein.
Ben, tu veux dire qu'il était plus professionnel que nous ?
Au moins aussi, autant que nous.
Tu veux dire qu'on est payé moins cher aussi.
Non, mais lui, il n'enregistrait pas avant, il parlait en direct.
Ah ben oui.
Non, on est payé un peu moins cher que Léon Zitrone quand même. Hein.
Oui, mais on parle pas cinq langues. Hein.
Oui, c'est vrai, donc on mérite moins pour le coup. Bon, Léon Zitrone, très clairement, effectivement, c'était un personnage qui touchait à tout. Il est rentré dans les médias par le journalisme. Moi, je le connaissais à la radio, je le connaissais à la télévision. Je le connaissais moins au cinéma et pour autant, il a une sacrée filmographie.
Oui, là, hein. J'avoue que je découvre.
Ouais. Et, qu'est-ce que vous avez retenu le plus, vous, de Léon Zitrone ? Alors, il a commencé la télé, si je dis pas de bêtises, en 1958.
Ouais, vraiment, c'est le...
À l'ORTF. Est-ce que vous gardez l'image de l'animateur, du chroniqueur dans les grosses têtes
Non, mais moi je me souviens parce que ça faisait pas longtemps qu'on avait la télévision, c'était justement pour le couronnement de la reine Élisabeth.
Mais je crois qu'il ne l'a pas couvert cet événement.
Oui, mais il a commenté, il a fait tout un tas de choses, il y était peut-être pas, je peux pas te garantir, mais je me souviens très bien qu'il commentait le couronnement. Bah,
il a présenté aussi le journal télévisé.
Oui. Et
ça, c'était un présentateur.
C'est ça.
Avec une diction impeccable, tout était parfaitement réglé. Non, c'était...
Et on disait qu'il est né en Russie, il est né en 1914 à Petrograd.
À Petrograd,
qui
oui.
Qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg.
Ah oui,
donc, un personnage qui avait plusieurs cultures, certainement, et qui a su les mettre à profit, quoi.
Moi, je l'adorais dans le commentaire de la course hippique.
Ah,
il n'avait pas son pareil pour à la fois accompagner le mouvement.
Ouais. Et alors, le ton,
au fur et à mesure que ça arrivait, il montait le ton, il citait tous les chevaux. Enfin,
avec la voix un petit peu éraillée en fin de course.
Oui,
hein,
c'est ça.
Non, ah, oui, il n'en pouvait plus. Hein. Il n'en pouvait plus, là, oui. C'est sûr.
Non, mais c'était un spectacle, c'est la nuit tout seul. Hein, donc, ouais. C'est vrai que c'était
Parce que même quelqu'un qui n'aimait pas les courses de chevaux.
Oui. Mais pour lui, par contre, il allait
Écoutez, c'est un plaisir.
Bon, on va laisser la place au spectacle maintenant par Josiane. Josiane, tu nous as préparé quelque chose cette semaine.
Ah oui, ils ont décidé de me faire bosser.
Alors, nous t'écoutons religieusement, on va essayer de...
Non. Il ne s'agit pas seulement de m'écouter. Il paraît que j'aime beaucoup les dictons, les proverbes et tout ça. Donc, en fait, je vais vous en sortir quelques-uns. Pas trop, hein, vous inquiétez pas. Que j'ai essayé de mettre par rapport à l'époque que nous vivons là en ce moment, des mois, des calendriers.
On va parler de Jones.
Ah oui.
On va quoi ?
On va parler de Jones.
Jones.
Ah, Jones. D'accord. Bon, alors, à partir d'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut.
En mai, fais ce qu'il te plaît.
Voilà.
Ah, on est bien là, on l'a.
Là. Ou alors, on a aussi, en avril,
ne te découvre pas d'un fil.
Mais en mai,
fais ce qu'il te plaît.
Alors, celle-là, vous êtes priés de vous taire, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Un oiseau n'est pas un bon calendrier.
Allez, Marc, au travail. Ah oui, bah, on a séché un peu, nous aussi. Hein.
Un oiseau n'est pas un bon calendrier. Je sèche.
Une hirondelle.
Ne fais pas le printemps, aussi.
D'accord. Voilà, donc.
Ramasse ton parapluie, il fait soleil.
Ce n'est pas tout vient à point qui sait attendre.
Ah, d'accord.
Tu ne l'as pas ?
Non, je n'ai pas.
Après la pluie ?
Le beau temps. Ah oui,
c'est tellement évident. Hein.
Alors, après un hiver doux, on a un printemps un peu froid.
Ah oui, Noël au balcon.
Pas cotison.
Parfait. Alors, le prof ou le patron parti, les élèves ou les employés chahutent.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Voilà, très bien. Et puis, avant le dernier truc que vous auriez pu me dire... je vais vous parler d'un grand homme qui a une statue à Nantes. Et sur le socle de cette statue est écrit une phrase qu'il est censé avoir prononcée. La garde meurt, mais ne se rend pas.
Ah oui, qui est-ce qui a dit ça ?
Qui est-ce qui a dit ça ?
Un boucher.
Il a sa statue.
Moi,
je ne l'avais pas.
Exact. Moi,
il connaissait. Tu connais autre chose.
Oui, mais ça, j'ai pas voulu le dire à la radio.
Cambronne à Nantes, effectivement. Cambronne.
Voilà. Alors, je vais me taire.
Non, tu peux pas ça, Josiane. Tu sais pas faire.
C'est pas que j'ai plus rien à dire, mais vous pourriez me sortir un proverbe.
Le silence est d'or.
Oui.
Avant.
La parole est d'argent.
Et d'argent, non, et le silence est d'or. Oh.
Salut.
Merci Josiane. Bon, je te mets au défi de plus parler. Hein.
22, tu paries combien ?
Ben voilà, perdu. Merci Josiane, on t'a retrouvé. Bon, on va écouter un nouvel indice musical qui n'est plus un indice puisqu'on a découvert notre personnage mystère qui était donc Léon Zitrone. Et on va écouter Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Voilà, il n'y a pas de lien puisque le personnage est déjà trouvé, mais c'est une petite chanson, je me suis dit, qui était sympathique pour finir cette émission avant la découverte que nous fera Marc tout à l'heure. Donc on l'écoute tout de suite et on se retrouve.
Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. s'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
C'était donc Céline Dion avec Pour que tu m'aimes encore, une petite chanson quand même qui est bien sympathique, hein, et on voit l'amour.
Ça s'écoute avec toujours autant de plaisir.
Oui, c'est universel et puis intemporel finalement. Et pourtant, c'est pas une chanson de votre génération forcément, mais elle fonctionne, je trouve.
Elle nous touche, hein, c'est
ouais,
sûr.
Ouais.
C'est...
Oui.
Alors dans le même thème, Pour que tu m'aimes encore, vous auriez-vous des chansons de vos 20 ans à partager ou pas?
Là tu nous prends un peu au dépourvu.
Allez, on va faire un petit tour de table de vos chansons d'amour. Allez.
Alors moi je me souviens, je sais pas si c'est exactement une chanson d'amour parce que j'ai pas retenu toutes les paroles, mais j'étais pensionnaire et la pionne pour nous tirer du lit le matin, donc c'était dans les années 60, nous passait retiens la nuit, ouais. Ta la la pour nous deux jusqu'à la fin du monde.
C'est pas des choses qui sont normalement un petit peu encadrées au pensionnat.
Alors, non mais justement on lui disait si vous croyez qu'on va sortir du lit avec une chanson pareille.
Je pensais à des chansons d'amour plus intimes moi, mais bon voilà.
Mais c'est encore beaucoup plus vieux, c'est Plaisir d'amour.
Ne dure qu'un moment, hein.
Je l'ai, ça, mais c'est de quel interprète, je ne sais plus.
Alors moi, quand en 1960, j'ai été très malade et je suis partie en sanatorium dans le Jura. Et oui. Et on chantait J'ai deux amours. Ah, on chantait ça à tue-tête dans le dortoir.
C'était Joséphine Baker, ça.
Voilà, exactement. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Josiane. Ben oui, c'est mieux dans le micro quand même.
J'ai deux amours,
ben voilà.
Mon pays et Paris.
Voilà. Eh oui, ben bon, par contre, ça nous rappelle quand même une sinistre période de l'histoire, malgré tout.
Mais la chanteuse a fait des choses extraordinaires. Hein, le nombre d'enfants qu'elle a adoptés et tout, c'était. Elle est morte plus ou moins ruinée, d'après ce que.
Oui, c'est même Grâce de Monaco qui lui a offert l'hospitalité.
Ah oui, à la fin de sa vie.
Bon, dans tous les cas, enfin, c'était un sacré personnage et universel, elle aussi.
Voilà.
Et toi, Marc, ta chanson d'amour?
Moi, c'est une chanson de cœur, qui démarre avec. Mon adolescence, c'est tous les garçons et les filles de mon âge. Alors, j'étais sans doute amoureux de Françoise Hardy, sans doute, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est une chanson
dans les années 60,
qui m'a vraiment touché à l'époque, parce que bon, vu mon âge, que j'avais, etc. Mais sa voix,
ça veut bien ce que c'est que l'amour.
Oui, c'est pour moi, c'est cette chanson-là qui me vient à l'esprit là. Pour répondre à ta question.
Bon, moi c'est une chanson de Ariane Moffat. Alors c'est une chanteuse canadienne qui chantait il y a une dizaine d'années maintenant. Je veux tout. Et dans cette chanson, ce qui résume un peu mon existence, c'est je veux tout, ton sourire et depuis tes fesses.
D'accord. De haut en bas.
Je vous la ferai écouter une autre fois parce
que ça peut être
mais c'est malgré tout une très belle chanson et c'est un peu réducteur de la réduire à ça.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on veut toujours tout et son contraire. Eh bien elle le chante parfaitement et je trouve que dans le couple c'est bien aussi. Je veux rester indépendant mais je te veux qu'à moi. Ça marche pas.
Mais non.
Donc voilà, ça fait partie des petites chansons qui pour moi sont assez symboliques. Tiens justement Jean-Marc, on va continuer avec toi. T'as une chanson à nous faire découvrir cette semaine de Gilles Servat, si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle La Blanche Hermine.
Oui.
Pourquoi ce choix?
Voilà, c'est pareil. C'est pour moi ça renvoie aux années 70, c'est-à-dire les débuts dans la fac. On est à Nantes. Voilà, c'est les Fesnos.
C'était en quelle année ça?
Je crois que c'est 70, la chanson. Elle sort en 70-72, je crois.
Ah, tu le sauras mieux que moi.
Oui, mais il me semble que c'est ça. Et donc c'est après 68. Voilà. Et puis il y a le mouvement, à l'époque. C'était plutôt le mouvement le breton.
D'accord.
Il y avait le FLB qui était encore assez vigoureux. Et voilà. Donc il y a eu tout un mouvement de la jeunesse entre guillemets bretonne. Au sens large du terme, parce que moi j'étais
1971,
voilà, c'est
surtout
ça.
Surtout que Nantes voulait se rattacher
oui,
à la Bretagne.
Oui, il y a toujours eu cette tendance là et puis il y avait ce retour à l'identité bretonne qui était importante après ces années où du début du 20e siècle où là le breton a été un petit peu enfoui, il fallait parler français, puis bon la Bretagne. Mais là donc même si elle a gardé tout le temps son folklore, mais là c'était une espèce de renouveau identitaire à travers ses chansons, et c'est ce que indique la chanson de Gilles Servat. C'était l'époque d'Alan Stivell, d'Anne Arbraz aussi, enfin bon, tous ces chanteurs qui ont émergé dans les années 70, quoi. Et donc pour moi c'est des bons souvenirs, quoi, de cette chanson, et on dansait sur cette chanson.
Et as-tu seulement des origines bretonnes? Parce que les Bretons ont envahi le monde, ça on le sait, mais
oui. Enfin, moi, je suis de Loire-Atlantique, originaire de Loire-Atlantique, près de Nantes.
Bah, j'entends déjà les Bretons rigoler, moi.
Et donc, je suis pas vraiment breton, moi, mais j'aime la Bretagne.
Qui n'aime pas la Bretagne?
J'aime la Bretagne, et j'aime les Bretons, même si des fois ils sont un petit peu fiers d'eux, hein, mais j'en ai rencontré dans ma vie, et voilà. C'est des gens intéressants.
Bon, on écoute tout de suite donc La Blanche Hermine de Gilles Servat et puis on réagit un petit peu après.
Parce que c'est un peu guerrier. Hein,
allez, on y va. Aux armes, citoyens.
Aux armes, citoyens.
J'ai J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. De la voir, mon cœur se serre là-bas, devant la maison. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. De la voir, mon cœur se serre là-bas, devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Non, il fait appel à la guerre des Bretons contre les Francs, enfin à l'époque
de 70?
La. Non, beaucoup plus en amont.
Josiane.
Au moment de la lutte entre le Royaume de France et la Bretagne.
D'accord.
Qui, voilà, après la Bretagne a été rattachée.
Rattachée,
mais avant, il y avait de la tension par rapport à ça. Et moi, cette chanson-là, bon, elle parle de cet épisode-là, mais aussi, c'est intéressant de voir, quand on voit encore ce qui se passe en Ukraine, les hommes qui partent à la guerre, ces femmes qui restent là, ou il y en a quelques-unes qui sont quand même qui accompagnent le mouvement sur le front, mais
et puis l'attachement à la terre.
Oui, c'est ça. Et puis l'attachement à leur identité, oui,
oui.
Et la terre, leur territoire. Et ça me fait penser aussi là, on a vu parce que là, j'ai passé quelques jours en Alsace. Et c'est du côté de Colmar, la fameuse poche de Colmar, il y a eu des batailles terribles. C'était on est en décembre 44, janvier 45, c'était l'arrivée sur l'Allemagne des corps qui avaient débarqué, et américains et français aussi, il y en avait. Et là, on voit que ça a été terrible. Et au niveau d'un monument aux morts. On s'est fait à l'affection avec mon épouse. C'était pas des soldats, mais c'était une femme.
Ah oui.
C'était une femme la mère des enfants, quoi, qui, et, enfin, la mère patrie aussi, peut-être, imaginez, mais en tout cas, c'était une femme qui était mise en valeur dans la statue. Et voilà, donc c'était un peu.
Tu as aussi en Bretagne justement tout par rapport aux femmes de marins qui attendent.
Oui, bien sûr.
T'as ça aussi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est un peu dans la culture bretonne, effectivement. Oui. Je te rejoins. La notion de partir à la pêche, c'était sans risque.
Et ne pas revenir éventuellement.
J'ai envie de dire aller à la pêche il y a 50 ans et aller à la pêche aujourd'hui, c'est pas la même musique quand même.
On est complètement d'accord.
Il y a une sacrée différence.
Ouais. Les prévisions météo, c'était plus
surprenant. Oui, puis alors, il faisait pas que de la pêche côtière, hein.
Non.
Ah oui, les Terre-Neuve qui partaient très loin.
Oui.
Bon.
Mais voilà, donc c'est une chanson. C'est une chanson.
Bon, c'est un peu l'année. C'est ta chanson révolutionnaire de tes 20 ans, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait partie de...
Et alors, pourquoi militais-tu en 71?
Si je parle de ce que je militais, en fait, je militais pour les paysans. Parce que moi, je suis fils de paysan. Et à l'époque, il y avait des tensions aussi du côté de l'agriculture. Et effectivement, je me souviens avoir manifesté dans une grande manifestation à Nantes. Il y avait 20 000 paysans. C'était quelque chose à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup plus de paysans que maintenant. Et alors, je ne sais plus trop contre quoi ou pourquoi on manifestait, mais en tout cas, il y avait des crises agricoles.
Oui, certainement.
Et voilà, donc j'étais très impliqué dans le mouvement paysan. Mon épouse était plus dans le mouvement étudiant. Que ma future épouse, parce que bon,
vous vous êtes trouvé quand même au final. C'est
on s'est
retrouvé
à la fac et voilà, on se retrouvait dans le militantisme.
Bon, on va enchaîner avec Jacqueline qui a une information culturelle à nous donner cette semaine.
Oui, ça va changer. Donc, au Château d'Angers, actuellement, l'Apocalypse, comme vous y étiez. À quelques mètres de la plus grande et ancienne tapisserie du monde, ce parcours d'interprétation ludique est présenté dans le logis royal et apporte des éclairages inattendus sur les multiples facettes de cette œuvre de la fin du XIVe siècle. L'exposition a commencé le 15 avril et durera jusqu'au 15 novembre 2023. Donc vous avez le temps au Château d'Angers et c'est pour tous les publics. Voilà.
Bon. Super, merci Jacqueline. Bon, pour le coup, alors tu m'as motivé à y retourner avec mes enfants. Moi, il faut que je prenne le temps.
Et puis quand tu regardes.
Mais dans le micro, c'est toujours mieux, Josiane. Hein
tu regardes ça et tu retournes voir les tapisseries de Jean Lursa. C'est vraiment formidable.
Ah oui, oui, oui.
Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes choses.
Il faut dire que la
terre, le symbole de cette fleur brisée, c'est vraiment. Et puis pour la fin, le vin qui explose, les fleurs et tout, la Renaissance, c'est
magnifique.
Extraordinaire.
Hein. Il faut dire que la tapisserie de l'Apocalypse.
Et les deux, l'un à côté de l'autre, c'est.
Ouais. Et puis la tapisserie de l'Apocalypse revient de loin, parce que quand on voit comment elle a été morcelée et mal entretenue,
mal utilisée.
Il paraît que les Allemands s'en servaient comme couverture
pour les chevaux.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
J'ai un nouveau dicton pour Josiane. Le silence est d'or et le micro d'argent.
Bravo.
Parce que pour mes chers auditeurs, je vous promets, je coupe des fois, mais je coupe surtout quand je dis micro. Bon, dans tous les cas, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. D'ici là, portez-vous bien et puis passez une bonne semaine.
Et faites ce qui vous plaît.
Et faites ce qui vous plaît puisqu'on est au mois de mai. À bientôt. Merci Josiane.
Merci Raphaël.
Et merci Marc.
Merci Raphaël.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
À bientôt.
Sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins. À bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes. Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5. FM.
Savourez nos différences.